Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de la mettre. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Vous écoutez Le Tarn à l'envers, l'émission de CFM Radio qui met en lumière des hommes et des femmes qui tracent un chemin durable et réinventent notre lien à la terre et l'environnement. Chaque semaine, partons à la rencontre et à la découverte d'initiatives vertueuses et inspirantes. Le Tarn à l'envers sur CFM Radio pour cultiver l'espoir et semer demain.
Il y a quelques jours, nous étions au Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac, dans le Tarn, où nous avons découvert des vitrines aux allures de cabinets de curiosités. Elles regroupent une riche collection d'animaux actuels, mais aussi de la préhistoire, ainsi qu'un univers de minéraux et de pierres précieuses. Parler de la nature autrement, au travers de son histoire et de ses spécimens. On se laisse guider dans le musée par Thibaut Lecric, qui à la fois nous enseigne et nous corrige certaines idées reçues.
Bonjour, moi c'est Thibaut Lecric, je suis le chargé des collections et de la médiation au Muséum de Gaillac. Et on est ensemble là pour une petite visite du muséum. Donc ce musée, c'est le musée d'histoire naturelle de Gaillac. À Gaillac, il y a donc trois musées, le musée des Beaux-Arts, le musée de l'Abbaye et le musée d'histoire naturelle, où on est actuellement. C'est le plus vieux musée de la ville, il a ouvert ses portes en 1896. Ce musée a pu voir le jour grâce à l'impulsion d'un homme, d'un Gaillacois, qui s'appelait Philadelphe Thomas, donc, d'où le nom du musée, qui est né en 1826 à Gaillac et qui est mort en 1912. Et ce monsieur a fait ses études à Paris, il est devenu du coup médecin et naturaliste. Bon, il faut savoir que la médecine, ça n'intéressait pas trop, mais par contre la nature, c'était vraiment quelque chose qui était moteur pour lui. Philadelphe Thomas, il était rentier, donc il avait beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui lui a permis d'acheter l'essentiel des collections qu'on voit actuellement au muséum au premier étage. On va dire environ 10 000 objets. Alors 10 000, ça peut paraître énorme, mais dans ces 10 000, il faut compter environ 8 000 insectes.
Donc là, quand on monte les marches et qu'on arrive au premier étage, on arrive sur une collection de mammifères empaillés.
C'est ça. Alors on tombe effectivement sur des mammifères. Donc dans cette grande vitrine, vous avez des mammifères, et notamment des mammifères qu'on peut observer dans le département du Tarn, à l'exception de deux qu'on ne pourrait pas observer naturellement, à savoir l'isard et le desmant des Pyrénées. Mais sinon, effectivement, là, vous avez un joli panorama, en fait, hein, de la faune locale. Alors, vous avez utilisé le terme empaillé. Vous avez raison. Là, les animaux qu'on observe, ce sont tous des animaux empaillés, de par la méthode qui a été utilisée pour les constituer, hein, les créer. Maintenant, on n'utilise plus trop ce terme, on parle de naturalisation, mais c'est la même chose, hein, au final. Enfin,
Qu'aujourd'hui, c'est quoi qui a changé dans la manière de conserver les animaux ?
Alors, ce qui a changé, c'est que, je grossis le trait, mais à l'époque, pour donner du volume aux objets, une fois que la peau avait été bien traitée et que le moule avait été fait, pour donner du volume, on mettait littéralement de la paille. Maintenant, on utilise de la mousse de polyuréthane. Voilà, donc c'est pour ça qu'on... D'accord. On ne parle plus vraiment d'empaillement, même si bon, ça reste dans le langage habituel. Hein. Il y a juste une petite subtilité. Ce petit rat qui est là, donc en fait, il a été momifié. Il n'a pas été naturalisé par un humain. Ce petit rat, il a été trouvé en fait dans les morts, dans les coutures d'un fauteuil, dans les années 1930. Et en fait, à ce moment-là, dans le musée, il faisait très chaud, hein, c'était l'été. Et quand il est mort, il s'est desséché avant de se décomposer. Ce qui fait qu'il s'est naturellement momifié. Et donc, quand il a été trouvé, il a été placé dans les vitrines, tout simplement. Donc, c'est une petite curiosité. Et il faut savoir qu'au musée, au muséum de Gaillac, on a deux momies.
On ira voir la seconde ensuite.
Bien sûr. Alors là, nous sommes devant la vitrine des poissons, Et notamment, la plus belle pièce, à mon sens, c'est une mâchoire de requin requiem, donc un requin qui peut atteindre, pour les plus gros spécimens, environ 4 mètres, qui doit son nom en fait à la couleur de ses écailles. Hein. Donc c'est un requin qui est très sombre, qui va tirer sur le gris sombre proche du noir. Et ce qui est super intéressant avec cet objet, et la façon dont il est présenté, c'est que quand on se place de côté et qu'on regarde en biais, on voit l'intérieur de la mâchoire du requin. Et surtout, on peut voir le nombre de dents qui sont réparties sur plusieurs rangées. Donc en fait, ça nous permet vraiment de nous représenter à quel point ces poissons sont vraiment adaptés à la chasse.
Vous avez essayé de les compter, les dents ?
Alors, à chaque fois que je reçois des classes, je propose aux enfants de le faire, mais ils ont rarement la patience. Mais du coup, on a fait des estimations, il y a environ 400 dents.
Dès la fin de l'hiver, la forêt s'anime, et les chants d'oiseaux éclatent de toutes parts. Puissant et mélodieux, le chant de la fauvette à tête noire résonne dans la ville.
Écoutez le Tarn à l'envers, une émission de CFM Radio. On est au Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac.
Dans cette vitrine, on a deux oiseaux qui ont en fait des records du monde. Chacun ont le leur. On a ici un pélican blanc. C'est l'oiseau qui a le plus long bec au monde. Il peut atteindre 50 cm de long. Et à côté de lui, un autre oiseau porteur de record, l'albatros hurleur. Alors l'albatros hurleur, c'est un oiseau qui paye pas trop de mine comme ça, il n'a pas l'air, mais c'est l'oiseau qui a la plus grande envergure au monde. L'envergure, c'est la distance qu'il y a entre le bout de l'aile gauche et le bout de l'aile droite lorsqu'elles sont déployées, dépliées.
Et là, effectivement, elle a les ailes repliées, mais il ferait quelle envergure, du coup, si on lui dépliait les ailes ?
Alors, celui-ci, si on lui dépliait les ailes, elle ferait environ 3 mètres. Mais certains albatros sur l'heure, plus grand qu'on ait observé, l'envergure était à 3,90 m.
Oui, ça fait un beau parasol.
Oui, exactement. Dans cette galerie, il y a une quarantaine de boîtes contenant des insectes qui sont exposées. Et dans chacune de ces petites boîtes, il y a des sphères en verre avec un liquide orangé dedans. Alors régulièrement, en visite, on me demande « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est du sang ?»
J'allais le faire. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ces petites sphères remplies de liquide rouge ?
Alors, ce liquide rouge, c'est de l'huile essentielle de thym, en fait. Hein, c'est du thymol. Donc, en fait, quelque chose qu'on peut acheter en pharmacie très facilement, qui sent fort le thym, de fait, mais qui n'est absolument pas toxique. C'est quelque chose qui va repousser les ravageurs. Là, nous sommes sur des insectes, du coup, des vrais insectes, morts, mais d'autres petits insectes, que nous appelons ravageurs, aimeraient bien grignoter ça pour se nourrir eux-mêmes, parce qu'en fait, les boîtes ne sont pas étanches, on peut les ouvrir très facilement.
Vous avez un animal préféré dans le muséum ?
Alors, dans le muséum, Moi, je pense que celui que je préfère, c'est le hibou grand-duc, en fait. J'aime beaucoup les hiboux de manière générale. Ce sont des très beaux oiseaux de base. Et puis, alors là, on s'éloigne un peu de la biologie, hein, mais pour tout ce qui représente, on va dire, dans la pop culture, dans les œuvres de fiction, dans les diverses mythologies, c'est un animal que je trouve vraiment très intéressant.
C'est un animal qu'on ne connaît pas beaucoup et qu'en fait, est très intéressant.
Ouais, exactement.
Il est trop méconnu.
Il est très, très méconnu. Alors, du coup, ce n'est pas un hibou, mais il y a une chouette, donc un rapace nocturne, qui a vraiment subi sa fausse réputation. C'est la effraie des clochers. La effraie des clochers, c'est une chouette qui a un ululement, un cri très, très particulier. Un cri. En fait, c'est un cri très strident, un petit peu fantomatique, qui fait peur, en fait. Elle était donc chassée, elle était tuée, et il l'a clouée sur les portes pour chasser les mauvais esprits. Donc elle, vraiment, elle a subi ça, et d'ailleurs, tous les oiseaux sont un petit peu en danger en ce moment, mais elle est vraiment...
En voie de disparition.
On pourrait dire en voie de disparition, ouais.
Donc là, on est monté au deuxième étage du muséum, et on arrive devant la seconde momie que vous avez ici.
Cette momie qui est là, c'est une momie humaine, hein, donc c'est une vraie personne qui vivait en Égypte il y a 2500 ans. Et du coup, à sa mort, ses proches l'ont fait embaumer, l'ont fait momifier. Hein, c'était les coutumes à cette époque en Égypte. On n'a pas énormément d'infos sur elle, mais bon, on a quand même deux, trois petits trucs. On sait que c'était une jeune femme, hein, qui est morte à l'âge de 17-18 ans. On sait qu'elle faisait partie d'une famille noble, hein, riche, qui avait les moyens. Et sachant cela, on estime justement qu'elle est morte de maladie. Parce qu'en fait, à cette époque en Égypte, il n'y avait pas de guerre. Et vu qu'elle appartenait à une famille riche, aucun problème pour se nourrir.
Et ici, elle est protégée par un crâne d'hippopotame qui est à côté d'elle.
C'est ça. Juste à côté, on a ce beau crâne d'hippopotame.
Dans la galerie géologique, du coup, vous fermez les volets. C'est pourquoi ?
Alors, l'idée, c'est de donner en fait une ambiance à cette galerie. Une ambiance un petit peu... on est un petit peu dans une grotte, on est dans une mine.
Oui, ça marche très bien.
Parce que comme vous pouvez le voir, dans cette galerie, on a des fossiles, des roches et des minéraux. Que des objets qu'on peut trouver, notamment sous terre.
Et alors là, si vous en aviez un préféré que vous deviez me présenter, ce serait quoi ?
C'est le crâne qu'on voit ici. Ce crâne, donc c'est le crâne d'un Eleutherium magnum. Ce crâne-là appartient à un animal qui était l'ancêtre de nos sangliers ou phacochères actuels. Ce crâne, il est super bien conservé, il est en très très bon état. Mais surtout, il est super intéressant pour le musée parce qu'il a été trouvé à 200 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où on se trouve. Hein, donc il a été trouvé au niveau du quai Saint-Jacques à Gaillac. Et surtout, il a été trouvé par Philadelphe Thomas, donc le fondateur du musée. Et il l'a trouvé en décembre 1873.
Les animaux donc naturalisés, est-ce qu'on sait combien de temps ?
Alors, si c'est bien entretenu, ça peut se conserver à vie. Enfin, si c'est bien entretenu et si ça a été bien préparé aussi à la base. Donc, si le taxidermiste a bien bossé. Nous, ce qu'on fait, on les dépoussière tous les ans. Dans chacune des vitrines, on a mis des dispositifs anti-ravageurs. Hein. Et ce qu'il faut aussi éviter, c'est surtout la lumière. La lumière du soleil, parce que les UV, en fait, ça va vraiment attaquer les plumes, les poils, absolument tout, et ça va les décolorer. Et il y a aussi quelque chose à laquelle il faut faire super attention, c'est l'humidité. On essaye d'avoir une humidité comprise entre 45 et 55%, humidité relative dans l'air. Malheureusement, on a très peu la main dessus, vu qu'on n'a pas de climatisme. Mais voilà, oui, donc en fait, si vous respectez bien l'humidité, les bonnes températures...
Ça peut durer combien de temps ? Plusieurs siècles ?
Ah oui, plusieurs siècles, très, très largement. L'essentiel des animaux qu'on a vus ont tous pour la plupart, plus de 150 ans.
C'était Thibaut Lecric, chargé des collections et de la médiation au Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac, dans l'émission Le Tarn à l'envers de CFM Radio. Toutes les informations du muséum sont sur le site de la ville de Gaillac. Merci de m'avoir écouté, c'était Nina de CFM Cordes.